Vous écoutez RFI, il est 6h à Beyrouth, 5h à Paris.
Marion Cazeneuve.
3 jours de deuil national au Liban, en Syrie et en Iran après la mort d'Hassan Nasrallah. Vive réaction aux proches et au Moyen-Orient. Le chef du Hezbollah libanais a été tué dans une frappe israélienne. On y revient largement ce matin sur RFI. Dans ce journal également, les autorités rwandaises appellent à la vigilance après la mort de 6 personnes infectées par la fièvre de Marbourg. Fièvre hémorragique similaire à Ebola et particulièrement mortelle. 6 millions d'Autrichiens votent aujourd'hui pour les législatives où l'extrême droite est donnée favorite. Et puis au Royaume-Uni, des milliers de personnes ont manifesté hier pour réclamer le retour de leur pays dans l'Union européenne. Le Hezbollah promet qu'il continuera le combat malgré la mort de son chef. Le parti chiite a confirmé hier la mort de son chef Hassan Nasrallah dans une frappe israélienne de vendredi. Sa mort plonge le pays plus profondément encore dans l'incertitude alors que l'armée israélienne continue de pilonner des positions du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, mais aussi dans le sud et dans l'est du pays. 3 jours de deuil national ont été décrétés au Liban, mais aussi en Syrie voisine et en Iran. La mort d'Hassan Nasrallah ne laisse aucun Libanais indifférent. Reportage sur place d'Abla Jounaidi et Jadel Khoury.
J'ai prié pour qu'il apparaisse, qu'il parle et nous dise. Comme je vous l'avais promis, nous allons prier ensemble à Jérusalem.
Les yeux fermés, les larmes coulent sur son visage pétrifié. Rima a fui la nuit de l'attaque son quartier chiite de la banlieue sud. La voilà sur la place des martyrs à Beyrouth, à pleurer le sien.
C'est notre père, notre honneur, notre force. Il ne peut pas partir comme ça.
Héros depuis plus de 30 ans de sa communauté, Hassan Nasrallah avait aussi des soutiens parmi les autres Libanais, à l'image de Mohammed, un sunnite.
Il était populaire, certains l'aimaient et d'autres non, mais ceux qui l'aimaient sont plus nombreux que ceux qui le détestaient. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique, mais cet homme, je le soutenais car nous avons un ennemi commun.
Israël qui promet ce samedi encore d'en finir avec le Hezbollah. Pour Marie, une chrétienne de Ayn Ramane, le nécessaire combat contre Israël n'excuse pas tout.
D'abord, que Dieu ait son âme. On ne peut pas se réjouir, il y a eu beaucoup de morts, des innocents y compris. Mais pourquoi? Pourquoi aller faire une guerre qui n'est pas la nôtre? Pourquoi aller en Syrie, en Irak, en Iran, où les États sont beaucoup plus puissants que nous, militairement, technologiquement, etc., etc.
Les Libanais, chacun à leur façon ce samedi, sont sous le choc de la mort de Nasrallah. L'État libanais a décrété 3 jours de deuil national à partir de lundi. Abla Jounaidi, Jadel Khoury, Beyrouth, RFI.
Israël a réagi à la mort d'Hassan Nasrallah. Nous avons réglé nos comptes avec le responsable du meurtre d'innombrables Israéliens et de nombreux citoyens d'autres pays. Déclaration du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui parle d'un tournant historique dans la lutte contre ses ennemis. L'Iran, de son côté, affirme que la mort du chef du Hezbollah entraînera la destruction d'Israël et demande une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie, proche de Téhéran, condamne fermement cet assassinat. Aux États-Unis, toute autre réaction. Le président Joe Biden estime que sa mort est une mesure de justice. Correspondant sur place de David Thompson.
La Maison-Blanche n'a pas été prévenue de la frappe israélienne. Ses relations avec Benjamin Netanyahou sont au plus bas. Mais cela n'empêche pas le président américain de saluer l'élimination d'Hassan Nasrallah. Cet homme dirigeait un groupe terroriste responsable de la mort de centaines d'Américains depuis 4 décennies d'un règne de terreur, écrit Joe Biden. Sa mort est une mesure de justice pour ses nombreuses victimes, poursuit le 46e président des États-Unis. C'est Nasrallah, écrit Biden, qui a pris la décision fatidique d'ouvrir un front nord contre Israël le lendemain de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. Joe Biden qui en profite pour appeler à la désescalade en privilégiant les voies diplomatiques. Mercredi, le président américain croyait être parvenu à négocier une trêve de 21 jours avec l'aide de la diplomatie française, effort douché dès le lendemain par Benjamin Netanyahou. Les deux hommes ne se sont pas parlé depuis un mois, ils n'ont plus de contact direct depuis août. Seul Lloyd Austin, secrétaire à la défense américain, et son homologue israélien se sont parlé depuis l'assassinat du chef du Hezbollah. David Thompson, Miami RFI.
Et les frappes d'hier au Liban de l'armée israélienne ont fait 33 morts et 195 blessés selon le ministère libanais de la Santé. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de 12 morts en Syrie. 12 combattants pro-iraniens tués dans des frappes aériennes d'origine inconnue. C'était hier dans l'est du pays. Et on revient largement sur la mort d'Hassan Nasrallah, sur ses conséquences sur le Hezbollah et plus globalement sur l'embrasement au Proche-Orient. Toute la matinée sur RFI notamment, dans deux éditions spéciales avec Julien Coquel-Rohem, la première après le journal de 6 heures, temps universel. Au Rwanda, à présent, la fièvre de Marbourg a fait 6 morts. Fièvre hémorragique, très souvent mortelle. Les victimes et les personnes actuellement infectées sont principalement des professionnels de santé, selon le gouvernement. François Mazet, les autorités appellent d'ailleurs à la vigilance.
Au lendemain d'un communiqué officialisant des cas de fièvre de Marbourg dans le pays, le ministre de la Santé a donné un premier bilan dans un message vidéo adressé aux Rwandais. Le docteur Sabin Nsanzimana a fait état de 6 morts et de 20 personnes contaminées actuellement sous traitement, pour la plupart des professionnels de santé. Il a également précisé que des efforts étaient en cours pour retrouver et tester les personnes qui avaient été en contact avec eux. Le virus de Marbourg est une fièvre hémorragique similaire à Ebola. Très mortel, il se transmet par le sang et les fluides corporels et frappe plusieurs organes à la fois. Il tient son nom de la ville allemande où il a pour la première fois été identifié en 1967 dans un laboratoire où des employés avaient été en contact avec des singes infectés venus d'Ouganda. Il a depuis touché plusieurs pays africains dont la RDC l'an dernier. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, a promis que l'OMS soutiendrait le Rwanda.
François Mazet, RFI, 3h07 en temps universel, 5h07 à Vienne. Élection législative aujourd'hui en Autriche. L'extrême droite fait figure de favorite dans ce scrutin qui s'annonce serré. Mais quel que soit le vainqueur, le futur chancelier devra former une coalition pour gouverner. Actuellement, le pays est dirigé par une coalition entre écologistes et conservateurs, avec à sa tête le chef de file des conservateurs, Karl Nehammer. Les conservateurs britanniques, eux, se cherchent un nouveau chef, quelques semaines après leur défaite historique, lors des législatives, qui ont vu le retour des travaillistes au pouvoir. Les Tories se réunissent donc en congrès à partir d'aujourd'hui à Birmingham, en Angleterre. 4 d'entre eux sont candidats pour prendre la tête du parti. Et le futur chef sera désigné en novembre. Les Tories, qui avaient porté le référendum sur le Brexit, aujourd'hui, un peu plus de la moitié des Britanniques réclament de meilleures relations avec le continent européen. Certains regrettent aussi ce départ de l'UE. Des milliers d'entre eux ont d'ailleurs manifesté hier à Londres, 8 ans après ce référendum. Reportage sur place d'Emeline Vin.
En queue de cortège, une douzaine d'éléphants qui symbolisent l'ampleur pachydermique des problèmes qui ont suivi le Brexit.
Nous représentons les musiciens britanniques qui sont en difficulté car il est impossible de voyager librement. 50% des musiciens britanniques ont arrêté leur tournée en Europe à cause des régulations ridicules imposées par le Brexit.
Liberté de mouvement, mobilité internationale pour les jeunes, meilleurs échanges commerciaux. À défaut de retourner dans l'Union européenne, Rod espère un rapprochement.
Ce sera de petits pas, une réintégration au marché commun ou à l'espace de libre circulation. Prenez l'exemple de la Norvège ou de la Suisse qui ne sont pas dans l'UE mais qui ont une très bonne relation.
Ceux qui étaient trop jeunes pour voter en 2016 réclament aujourd'hui d'avoir leur mot à dire. Pour autant, Stephen fait la grimace en évoquant l'idée d'un deuxième référendum.
Retourner totalement dans l'UE, ce n'est pas réaliste. Notre départ a été un événement traumatisant dont nous ne sommes pas encore tout à fait remis.
Les manifestants suivront avec intérêt la rencontre mercredi entre le Premier ministre Keir Starmer et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui donnera le ton de la nouvelle relation euro-britannique. Emeline Vent, Londres, RFI.
En France, le Premier ministre prépare un exercice périlleux, sa déclaration de politique générale. Michel Barnier présentera sa feuille de route, son cap politique devant le Parlement mardi. Exercice périlleux car il fera face à une assemblée fragmentée en 3 blocs sans majorité absolue après les législatives de juillet, avec notamment certains partis qui menacent de déposer une motion de censure contre son gouvernement. On sait déjà que Michel Barnier envisage d'augmenter les impôts pour combler une partie du déficit de la France. Dans un texte texte publié par la Tribune hier soir. 27 députés macronistes s'y opposent et préconisent d'autres solutions comme par exemple une baisse du nombre de fonctionnaires. C'est la fin de cette édition. Il est 5h10 à Paris, 3h10 en temps universel.